est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la Confédération nationale du travail, animée en direct sans retenue ni complaisance chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
Édito du lundi 19 juin 2023 du Monde Merveilleux d'après. Le syndicalisme révolutionnaire, est-ce un groupement de travailleurs marginaux, une doctrine pour les masses laborieuses, une solution à la question sociale en souffrance? Est-ce l'organisation future d'un prolétariat qui s'ignore? L'anarcho-syndicalisme et le syndicalisme révolutionnaire, c'est une dynamique sociale et politique qui n'a encore pas donné son potentiel. En cette journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit, nous avons une solution. La syndicalisation de la société sur des bases fédéralistes et révolutionnaires. Car si vous comptez sur l'état-major des armées pour arrêter les conflits et les violences sexuelles, ben, vous êtes bien naïfs. Alors, par quoi on commence? Vous le saurez à l'écoute du Monde Merveilleux du Travail. Et tout de suite, sans haine ni passion, nous enchaînons sur notre chronique collectif de l'almanach culturel de l'actualité brûlante, qui n'a pas précisément de thème.
Eh oui, qui n'a pas précisément de thème, mais qui est de l'actualité immédiate et brûlante.
Déguisés en flics, sales enculés, c'est bien foutu leur combine.
La société qui est bien foutue, elle met des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître.
Quand il est agent, c'est le plus charmant des hommes, avec même de l'éducation.
Et instruit, capable de causer tout.
Chers auditeurs et chères auditrices, liberté, égalité, fraternité, ça, c'est de la formule où je ne m'y connais pas. C'est ce pourquoi les peuples et les gouvernements démocratiques tiques ont toujours lutté. Bon, ça sonne un peu creux. Hier, Macron a célébré l'appel du 18 juin. Il aurait pu célébrer la pioche ou le tournevis, lancé par le général de Gaulle, qui n'était que colonel en 1940. Cet appel du 18 juin 1940, que personne ou presque n'aura fumé à la TSF à cette date, mais dont tout le monde aura pris connaissance après les affiches sauvages, je cite, dans les rues quelques jours plus tard, comme les banderoles dans les manifs que la police arrache des mains de nos black blocs. Que cela ait inspiré un esprit de résistance spontané ou non, le fait que des personnes ont pris part au sabotage du régime d'oppression et d'occupation étrangère du pays dans lequel ils vivaient. Là, ce qui nous conduit au premier point, la libéralité ou la liberté du pouvoir.
Entre ici, Manuchian. Alors, pas encore, mais presque. Le 21 février 2024, le héros de la résistance FTP Moy, ce cadre de l'international communiste, va entrer au Panthéon. Je ne sais pas si ça lui aurait plu à Manoukian. Ouais, je ne sais pas si on dit Manouchian ou Manoukian, j'ai toujours dit Manoukian. De savoir que c'est un président directeur général de la France libérale qui lui fait cet honneur. On peut se poser la question. Lui, le travailleur émigré, l'Arménien qui chantait la bohème dans le maquis parisien. Dans le même temps, Macron fait une proposition de loi immigration pour une gestion plus humaine et moins absurde. En d'autres termes, effectuer une sélection à l'entrée. Son idole, le maréchal Pétain, lui, l'a faite à la sortie, via le Veldiv. Entre ici, Manoukian. Il s'est fait fusiller pour que Darmanin réprime les manifestants qui luttent contre des projets antisociaux et pro-industriels et menace d'interdire les soulèvements de la terre. qui, en Maurienne, c'est-à-dire en Savoie, sont contre la ligne ferroviaire grande vitesse Lyon-Turin. Que nous disent les médias ?
Eh bien, c'est l'égalité aussi. Je cite le 20 minutes du 17 juin 2023. Derrière la banderole, en de tête, annonçant, la montagne se soulève. Allez, drôle. Se mêlent jeunes au visage camouflé, militants équipés de casques, de parapluies. Ben avec le temps qu'il fait, c'est pas étonnant. Et de masques à gaz, personnes plus âgées se protégeant du soleil sous un chapeau de paille. De toute façon, on ne sait plus à quel sens. Oui, le temps change tous les jours, même fois, plusieurs fois par jour. Je cite, faites attention à vous. Souffle une dame à un groupe de jeunes en train de revêtir des équipements de protection. Faites le plein de cailloux. La vallée de la Maurienne, il y en a des cailloux. Il faut reboucher le tunnel. Ah, putain, ouais, c'est un peu dur là. Lance pour sa part, ironiquement, une jeune femme en tenue de Black Bloc. On notera même un traitement de fond par tous les journalistes et sur les mêmes thèmes. Soutien de la doxa démocratique bourgeoise comme forme naturelle de pouvoir. Oui, ne pas objecter celle-ci. Relayer les infos nécessaires au bon fonctionnement de l'État. Inviter des spécialistes ou plutôt des techniciens en leur matière et qui ne remettront pas en cause les éventuels méfaits de ce qu'ils viennent discuter. Et pour couronner le tout, inviter des PDG, bah oui, ce que disait mon camarade à l'instant, qui font le tour du monde en jet privé. Ben c'est normal, leur chef aussi fait le tour du monde en jet privé, payé par pour nous d'ailleurs. Pour nous expliquer, d'un état à l'autre, comment réduire l'effet de serre et la pollution mondiale, ou comment préserver la nature, bien sûr. En plantant des éoliennes dans le paysage rural, dont l'énergie propre va se confondre avec l'énergie nucléaire nécessaire au bon fonctionnement des vélos électriques, va pas falloir les foutre dehors tout de suite, nos migrants. Si on doit planter des éoliennes de 30 mètres de haut, alors la police, tout ça...
Oui, mais alors, je voulais quand même dire, la tenue officielle, comme à Sainte-Soline, en Savoie, c'était le bleu pour rappeler le combat de l'eau. Et là encore, c'est pour dénoncer l'utilisation de l'eau pour construire ce tunnel que l'on creuse à flanc de montagne. Fraternité de la police, la manif du 6 juin a marqué la fin des mobilisations syndicales unitaires contre la réforme des retraites. Ouf ! Nos flics n'en pouvaient plus. Ils sont fatigués de taper. Mais ils aiment ça quand même. Pourtant, il faut remplir les quotas, aura-t-on entendu d'un de leurs supérieurs. Arrêtez-moi tout ça. Et ça cogne à droite, à gauche, même sur ceux qui sont assis dans l'herbe sur la place de la Nation. Nous noterons que des problèmes de livraison majeurs vont empêcher de disposer du matériel nécessaire à toute bonne manif. Si on ne peut plus compter sur Uber, feu d'artifice, où va-t-on ? Du coup, ça n'a pas été l'apothéose. Pourtant, il y avait un gros déploiement de flics en civil, une infiltration discrète des Black Blocs. Vous les reconnaissez ? Ils ont des oreillettes et quand vous en repérez un, hop, il sort son iPhone pour vous faire croire qu'il est comme tout le monde. Mais non, il vous filme. Et ça, vous le savez, parce que quand on place son téléphone sur son oreille, on laisse rarement son oreillette. Eh oui, gaulé. Le 27 juin, à Nantes, les dules ont quand même lancé des lacrymos sur 4 personnes. Ils étaient plus, ils étaient 10. Pour 3 fumigènes et une banderole. La menace était suffisamment grande pour que la police estime nécessaire de gazer l'ensemble du miroir d'eau. Voilà, cette petite place là. Où jouent des mômes. Et les passants s'indignent. Les quotas. Ils sont rendus compte à la caserne qu'ils n'avaient pas utilisé tout leur stock. Et aussi, c'est la manière à eux de commémorer le 6 juin 44, donc le débarquement des Alliés en France, occupés par des migrants allemands, voire nazis. Mais plus allemands quand même.
Mais oui, mais... oui, alors, que tirer de tout cela ? Que tu aies tout cela, Nantes, Nantes avec nos jeunes qui se sont fait gazer, la belle de la Maurienne avec de la répression plus qu'il n'en faut. Et puis, en fait, c'est dans la continuité. Alors, ils ont l'air fatigués, la police, mais c'est dans la continuité de toute l'œuvre antisociale.
Eh ben justement, je vais aller faire une petite chanson pour la police.
Ouais, pas tout les louper.
Tout de suite. Je vous dis ça. Presque tout de suite, hein. Presque. Ah bah oui, je l'entends pas forcément.
Ah, ben aujourd'hui, on a un beau four au moulin.
Hein.
Ben
oui, notre technicienne n'est pas venue, donc...
Get even. Tonight we get even.
C'était Cop Killer de Body Count avec Ice-T, chanteur qui est devenu comédien aussi, qui interprète beaucoup de rôles de flics. Voilà. Un cop killer, c'est un ambigu, ils ont eu des problèmes, parce que c'est à la fois tueur de flic et flic tueur. Voilà.
Ça va, c'est l'espèce d'ambiguïté de la langue anglaise, toujours.
Et oui.
Mais ça peut passer devant un tribunal.
Ils ont eu des problèmes. Oui. Mais enfin bon, c'est en 92, hein, depuis c'est réglé.
Oui, et puis ils ont toujours des problèmes. Ils ont d'autres problèmes. Bon... Donc, cette émission un peu... Quelque tombé sur le sous-sens. Hein. On avait besoin de... me semble-t-il, faire un point sur,
oui,
sur
parle...
la CNT et surtout le syndicalisme révolutionnaire.
Mais on dit toujours.
Alors, toi qui es le maître absolu de la Doxa,
oui.
Le sage sur, le, sur la montagne.
Le singe.
Le singe. Hein. tu peux nous donner une définition et donner à nos amis.
Mais tu vas pas nous faire chier à chaque fois des définitions.
Une définition, mais si. C'est important de définir pour savoir ce qu'on est, ce qu'on fait. Ah, et puis où on va, puis voilà, donc il faut savoir d'où on part. Ah, bon, bref. Qu'est-ce que c'est que le syndicalisme révolutionnaire, monsieur ?
C'est un groupement de travailleurs qui veut non seulement... Enfin, alors, oui, on veut dire que c'est une doctrine.
Mais c'est pas un gros mot. Hein.
Oui, oui, je le prends. Oui, chers auditeurs et auditrices, c'est pas un gros mot. C'est une doctrine qui dans les qui est l'expression aussi en fait de la conscience de classe des travailleurs et des travailleuses et qui se matérialise dans des syndicats on va dire fédéralistes sur une base fédérale en tout cas et non autoritaire. Alors, c'est vrai que l'histoire du syndicalisme révolutionnaire a évolué. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit syndicalisme révolutionnaire et anarcho-syndicalisme. Il y a quand même l'apport des camarades espagnols, qui n'est pas à négliger. Mais les syndicalistes révolutionnaires ont toujours été des anarcho-syndicalistes. Parce que là, c'est vrai que l'idéologie anarchiste a toujours été assez... présente, enfin, elle a beaucoup accompagné, pas que, mais ça a construit aussi la pensée syndicale, voilà, le syndicalisme révolutionnaire. Alors moi je dirais le syndicalisme révolutionnaire, mais quand je dis ça, il faut comprendre syndicalisme révolutionnaire et anarcho-syndicalisme. Voilà, pour moi le terme générique englobe les deux termes. Hein, je ne vais pas répéter. Bon, entre nous, quand on s'envoie des courriers, on dit à SSR. On ne va pas dire à SSR à l'antenne. Mais je vais m'en tenir à syndicalisme révolutionnaire. Mais sachez que nous sommes des anarcho-syndicalistes. Et non pas des syndicats anarchistes.
Ah oui,
c'est pas tout à fait la même chose, oui. En fait.
Oui, non, mais c'est même pas du tout la même chose.
Et voilà. Et donc, il y a peut-être autre. Voilà. Et donc, alors, le syndicalisme révolutionnaire a aussi évolué au départ, à sa création. Moi, je citerais plutôt en 1901. C'est vraiment l'action de Pelloutier qui a donné ses formes au syndicalisme révolutionnaire. Il y avait quand même des permanents syndicaux. Donc il y a eu une critique quand même de certains anarchistes, et notamment Malatesta en 1907 au congrès d'Amsterdam, congrès anarchiste d'Amsterdam. Et je crois que ça a été quand même relativement pris en compte, consciemment ou inconsciemment, mais avec le temps, puisque aujourd'hui, à la CNT, à la Confédération Nationale du Travail...
Des Vignoles.
Des Vignoles. Oui, mais l'autre CNT, c'est la Confédération Nationale des Travailleurs. Ah, oui. Pas la même CNT.
C'est le même acronyme.
Voilà. Et puis eux, ils sont anarcho-syndicalistes. Ce qui me fait bien marrer quand je connais les gens qui sont dedans. Ils ne sont que anarcho-syndicalistes. Bon, voilà. Nous, c'est la forme traditionnelle. C'est l'évolution, on va dire, naturelle du syndicalisme révolutionnaire depuis sa création. Sauf qu'on s'est, séparés de tout ce qui pouvait... apparaître comme étant, alors, non pas autoritaire, mais avoir des permanents syndicaux, en tout cas. Ce qui n'est pas le cas dans l'autre CNT. Et nous, il n'y a pas de rémunération. Donc voilà, il n'y a pas du tout de rémunération. Il n'y a pas de permanents syndicaux, pas de rémunération. Et
Mais d'ailleurs, on le dit très bien, nous, lors de l'introduction de l'émission maintenant quasi mythique du monde merveilleux du travail, c'est sur nos heures de loisirs qu'on anime l'émission et aussi qu'on milite.
On pourrait le faire sur nos ordres de délégation.
Sur nos ordres de travail.
Ça ne poserait
aucun problème.
Ça ne poserait aucun problème, oui.
Alors, qu'est-ce qui. Le premier point, en fait, qu'il faut rappeler, peut-être un des points fondateurs, c'est que ça a été dit dans la charte d'Amiens, écrit dans la charte d'Amiens, c'est l'un des... D'abord, c'est la lutte de classe, la reconnaissance de la lutte des classes.
Ouais.
Ça, c'est un point fondamental qu'a un peu oublié aujourd'hui, depuis, on va dire, depuis 20-30 ans. Je crois que ça, c'est un petit peu... À part la CNT, hein. Là, dans les autres, la CGT, ce qui reste de la CGT, qui est toujours la CGT, ça a tendance à revenir dans certains syndicats, mais ce n'est pas la Confédération qui revendique...
Ah voilà, c'est qu'il peut y avoir des syndicats ou des sections dans les syndicats qui sont attachés à la lutte des classes. Voilà. Ils font bien le distinguo. Mais malheureusement, ce n'est pas que ces personnes qui font le syndicalisme révolutionnaire, c'est aussi la Confédération, les statuts de la Confédération. C'est important aussi. Nous, donc, on fonctionne avec des statuts et dedans, il y a des termes qui sont assez clairs. On ne défend pas des salariés. On ne considère pas... c'est des travailleurs et ou des producteurs. Alors, les productrices aussi. Hein, vous féminiserez, chers auditeurs, auditrices. Ouais. Mais je ne veux pas passer mon temps qu'à ça. Donc, voilà, c'est... Bon, après, voilà. Alors les statuts de la CNT actuelle, les camarades ont fait l'effort, effectivement, en 2008, de féminiser les terminologies. C'était déjà pas super lisible, mais alors là... ils ont allégé quand même, effectivement, en supprimant effectivement tout ce qui pouvait apparaître comme étant du... Parce que pendant jusqu'en 2007, on va dire, donc, les permanents syndicaux étaient possibles. Puisque on est... Bref. Donc, il y a des statuts qui régissent le fonctionnement, qui donnent une orientation politique... Et il y a la charte du syndicalisme révolutionnaire aussi. Moi, j'y suis assez attaché, donc, qui date de 1926. Et donc là, c'était la création de la CGT-SR. Donc là, ça était la création d'une confédération qui était proprement syndicaliste révolutionnaire. Parce que de 1909, on va dire, à 1925-26, il y a eu, encore après, une tendance syndicaliste révolutionnaire, mais dans une confédération qui ne l'était plus. Parce qu'elle avait participé à l'entrée de la Première Guerre mondiale, à l'Union sacrée. Et puis, c'est déjà pas mal.
C'est une trahison absolue, de la lutte des classes, des engagements initiaux que contient la charte d'Amiens. Hein. Déjà, c'était donc à la limite. Et puis, c'est le rapprochement des partis politiques. L'entrée en guerre, ça a été. C'est finalement les années d'avant-guerre, d'avant la Première Guerre mondiale. C'est aussi le rapprochement de certains syndicalistes avec les socialistes organisant un parti politique. Et donc, un petit peu une trahison de l'autonomie des syndicats.
On retrouve avec les autres. Syndic confédération, on retrouve toujours ce schéma. Ça peut être la CGT, d'abord, elle était proche du Parti communiste. Dans les années 80, proche du gouvernement Mitterrand. Et puis récemment, on a quand même entendu, lors des dernières élections présidentielles, j'ai entendu Martinez, effectivement, de faire barrage. Au Front National, donc, il n'a peut-être pas dit explicitement qu'il faut voter pour Macron, mais dans la mesure où il n'y a que deux candidats, il faut faire barrage au Front National, Rassemblement National, excusez-moi. et non, alors déjà, ils ne sont plus dans le cadre de la charte d'Amiens. Parce que là, ça veut dire que. Ils prennent parti pour le régime républicain bourgeois qui est en place.
C'est une validation effectivement de. Et c'est contre-productif, ça va même. C'est antinomique. C'est antinomique et contre-productif. Et finalement, c'est simplement dire qu'ils ne sont plus des syndicalistes, peut-être.
Ils font de la politique.
Ils font de la politique. Voilà. Et pourtant, on a posé la question à monsieur. Comment s'appelle-t-il déjà J'ai entendu ça sur les ondes. Berger, est-ce qu'il allait maintenant parce qu'il quitte la direction de la... Pareil, c'est plus le chef de la CFDT. Donc, Merle, vous dites, est-ce que vous avez un avenir politique? Est-ce que vous allez faire de la politique maintenant, M. Berger? Oh, ben non.
Bah,
on attendra de voir. Il n'a pas cessé d'en faire.
Ouais, il fera comme ça, là, près des... Comment on dit? Près des...
Décesseurs. Son prédécesseur femme qui était...
Nicole Nota.
Ouais.
Ouais, il en a peut-être eu un avant, je ne sais plus.
Oh,
enfin bon,
oh,
bref. Ouais. Voilà.
Il n'y a pas Chirac, un truc comme ça. Donc,
il y a eu Chirac. Ouais, Chirac, ouais, c'est Chirac. Ouais. Et avant, enfin, bon. Mais avant Chirac, c'était Nota. On a vu ce qu'elle est devenue.
Bah, oui.
Chef d'entreprise.
Bah oui.
Enfin, entre autres. Oui, donc, alors. Bah, après, alors, c'est quand même étonnant que. Les confédérations, les syndicats et de toute façon la loi, là, les législateurs prêtent aux syndicats l'autonomie, enfin prêtent aux syndicats leur autonomie, ça ne veut rien dire, mais on accorde le statut de syndicat à tout syndicat et confédération qui respecte la charte d'Amiens. Ah, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, la charte d'Amiens. On est loin du compte, hein, quand même. Hein.
Ah oui, plutôt, oui.
Hein, c'est quand je dis, elle prépare l'émancipation intégrale qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste. Il préconise comme moyen d'action la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd'hui groupement de résistance, sera dans l'avenir le groupement de producteurs et de répartition, base de réorganisation sociale. Bien. On est loin du compte, hein, quand ils appellent à voter, à faire barrage.
Ouais. Non, il n'y a aucune volonté d'organiser, il ne s'agit pas de réorganiser, il n'y a aucune volonté d'organiser quoi que ce soit, si ce n'est de succéder à eux-mêmes sur la base de, j'allais dire, d'une institution. Une institution qui est quasiment bourgeoise, hein, non, c'est, et puis hiérarchique.
Mmh.
Donc, en fait c'est ni plus ni moins, oui, c'est une forme de trahison de la charte d'Amiens, donc...
Mais pourtant, tout le monde s'en revendique.
Ouais,
c'est le paradoxe.
Ouais. Oui, c'est bien de le dire à l'antenne, et notamment, alors, on n'a pas des millions d'auditeurs, mais tous les camarades qui seraient libertaires, de manière générale, qui ne seraient pas à la CNT, et ben c'est pas le bon choix.
Et puis il y en a.
Ce n'est pas le bon choix, vous dis-je. Ne vous regardez plus dans le miroir.
Alors justement, qui est-ce qui formerait, aujourd'hui en tout cas, le cheptel? Ça c'est plus pour la CFDT.
Bah, vous avez compris.
Mais le cheptel d'adhérents, hein? Non, je ne sais pas, parce que on va quand même parler, on va pas parler que du syndicalisme révolutionnaire d'avant.
Oui.
On fera forcément des retours.
Bien sûr.
Mais essayer d'en parler aujourd'hui.
Oui.
Parce que la société a évolué aussi. Mmh. Alors effectivement, je pense qu'à son époque, donc le syndicalisme révolutionnaire, il répondait aux attentes des producteurs, des productrices, travailleurs, travailleuses de leur époque.
Mmh.
Enfin, de son époque, pardon. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en phase?
Bah,
ça, c'est un peu plus difficile.
Alors, en phase, c'est pas le mot que je dirais. Je dirais qu'on est. Si on était en phase là aujourd'hui, ou si on avait été en phase il y a 3 mois, on aurait renversé la table. Tu comprends ce que je veux dire?
Ah oui.
Voilà. On n'est pas en phase. Être en phase, c'est être. Avoir tous la même volonté, le même objectif en même temps. Et ça arrive parfois, ça arrive, ça, et ça fait des grandes choses en général. Alors après, ça dépend de ce qu'on en fait ensuite, hein, mais ça crée le grand événement qui peut amener des grands changements, des grands bouleversements. Ça n'a pas été le cas. Donc là, en phase, moi, je considère que c'est bien.
C'était pas le terme, peut-être.
Mais c'est bien de l'avoir dit, parce que effectivement, c'est ce qui est attendu finalement par les syndicalistes révolutionnaires ou une partie des militants révolutionnaires. C'est cette phase, cette là, cette petite ouverture qui fait que ça crée un mouvement ensuite qui peut amener à des grands bouleversements et des changements radicaux. Et il faudrait pas que ce soit, ça nous vienne, il faudrait pas que ça nous vienne des éléments extérieurs, par exemple. C'est-à-dire, je pense notamment avec tout ce qui se passe en ce moment en termes de perturbations climatiques et autres. Parce qu'un grand bouleversement, ça pourrait être radicalement, ça pourrait, enfin, mettre un terme définitif à toute forme de, d'exploitation capitaliste pour quelques millions d'années. Bon, mais voilà, c'est pas ça que je pensais, mais bon, c'est pas impossible qu'on y vienne aussi. Par contre, ce qui aujourd'hui, on reste nous, enfin en tout cas la CNT, le syndicalisme révolutionnaire, reste peut-être pas en phase, mais reste sur une ligne qui est peut-être une ligne, alors je sais pas, d'avant-garde, mais en tout cas une ligne qui est toujours valable, même si elle l'était déjà en 1895, en 1926, elle l'a été en 1946 avec la création de la CNT française, elle l'est encore aujourd'hui, c'est la lutte des classes. Comme principe, c'est ce que tu as énoncé tout à l'heure, la grève générale comme moyen de renverser la table, justement. Ça veut dire derrière une conscience des travailleurs, de leur pouvoir, parce que c'est pas autre chose. Est-ce qu'on a vraiment envie de prendre le pouvoir? Est-ce que les travailleurs ont vraiment envie de prendre le pouvoir pour changer le modèle dans lequel ils souffrent, ou par lequel ils souffrent? Ça, en fait, c'est la grande question.
Alors, quand on parle de pouvoir, c'est de pouvoir... Un pouvoir collectif, c'est pas un pouvoir personnel.
Ah non.
Sur les ondes de Radio Libertaire, pourrait faire bondir certaines camarades.
C'est du collectif, de toute façon. C'est du syndicalisme, on sent que c'est forcément du collectif.
C'est du pouvoir dans la mesure où on ne le laisse pas à quelques individus qui vont décider pour nous de comment on travaille, comment on doit travailler, ce qu'on gagne, et de ce qu'on doit faire, et sur quels horaires on doit le faire, et où on doit le faire.
Exactement. Donc on est, moi je pense que ça reste un sujet mais d'une actualité terrible.
Alors c'est mon point de vue aussi, hein, sinon je serais pas syndicaliste révolutionnaire. Le problème c'est que la société a évolué et les travailleurs et travailleuses, en ayant des meilleures conditions de vie, se sont quand même éloignés de la lutte des classes. C'est ça aussi qui fait la difficulté de pouvoir toucher...
On le dit dans certaines de nos chroniques, hein, comment dire, arrêter de consommer tout et n'importe quoi, n'importe quel moment, enfin bref, c'est ça en fait, c'est la consommation, c'est l'accumulation de biens. Avoir 15 paires de pompes, 3 voitures... des vêtements, on peut jamais en porter qu'un. Veut dire, bon, alors il y en a un au sale, hein, puis il y en a un qui est dans l'armoire. Voilà, c'est bon, on a fait le tour du truc.
C'est vrai que, l'impression que l'amélioration des conditions de vie, ça a enlevé tout esprit critique et tout recul. Et ça pourra nous faire paraître comme archaïque parce que notre fonctionnement est horizontal. Et non pas vertical, avec des chefs qui décident à nos places. Alors c'est vrai que les prises de décision verticales et les commandements autoritaires, c'est pas d'hier non plus. Donc ce qu'on finit pas par s'habituer. Est-ce que certains, justement, finissent pas par s'y habituer et l'accepter?
Probablement, mais on n'est pas tous dans ce cas-là, parce qu'on est tous... la preuve, c'est qu'on est là autour de cette table et dans ce studio, et qu'on n'est pas les seuls, heureusement.
Et puis qu'on est sur Radio Libertaire, donc ça fonctionne aussi bien avec des animateurs et des animatrices, techniciens, techniciennes, et des auditeurs et des auditrices.
Voilà. Donc non, je pense que... Alors on n'est pas Légion, ça, c'est une évidence, parce que sinon...
On l'a jamais été. Ben, je crois, moi, j'avais lu...
On n'est pas Légion, mais on est visible.
Ben, on est toujours là.
Ouais.
Et puis... Alors ouais, c'est ce qui fait notre particularisme. Mais là, je vais revenir sur le nombre. En 1926, il n'y a pas tant de syndicalistes révolutionnaires que ça, quoi. Alors bon...
Mais la souffrance ouvrière est grande.
En 1946, on a des chiffres. Après, est-ce que les chiffres sont bons? J'ai vu certains documents de la CNT où ça monte à près de 90 000, le cumul. avec des grosses formations syndicales, et puis l'autre plus réduite. Bon, maintenant, on est tous réduits. Mais ça n'a jamais été super. Ça n'a jamais été les effectifs de la CGT, y compris à l'époque. Donc, on n'a jamais été super nombreux.
Alors, la question de se poser, c'est est-ce que ça ne fait pas peur aux travailleurs d'aller jusqu'au bout d'un projet politique qui va peut-être les priver d'un confort, le confort matériel, enfin en tout cas celui qu'ils connaissent en tant que membre de la société de consommation ou...
Et surtout qu'on est sur deux tableaux. On est sur sur l'idéologie, donc la transformation de la société, mais on est aussi sur le terrain et sur l'instantanéité, on va dire. Donc effectivement, pour pouvoir faire la révolution sur les bases syndicales fédéralistes, il faut déjà mettre la main à la pâte dans la boîte. Et là, c'est autre chose, ça. Ça veut dire s'exposer. Et est-ce qu'effectivement, quand on jouit déjà d'un certain confort, est-ce qu'on a envie de s'exposer pour que tout le monde puisse bénéficier du même confort que soi? Ça, c'est une question à se poser. En fait, il y a beaucoup d'égoïsme dans tout ça. Dans tous ceux qui font pas de syndicalisme révolutionnaire.
Et est-ce que finalement, alors d'égoïsme et puis d'opportunisme, parce qu'ils veulent bien profiter mais pas s'engager, profiter ce que Martine appelait à l'antenne
passager clandestin.
Passager clandestin.
Ça a toujours été ça.
Oui. Ça a été, mais enfin moi j'ai de plus en plus de mal avec ça. Quoi. Plus de mal. Après, c'est comment chaque militant le vit, chaque syndicaliste le vit. La crainte, c'est de se renfermer dans un microcosme militant politique et puis plus tenir compte des autres. Qui sont la grande masse des travailleurs un peu sans repère. Quoi. Je ne dis pas qu'ils sont malheureux, mais qu'ils ont, finalement, ça leur convient comme ça, puisque sinon ils changeraient. Peut-être.
Ouais,
Mais c'est, difficile.
C'est difficile, oui.
C'est une jachère, on n'arrive pas à cultiver ça.
Même de toucher ces... Alors, peut-être que... tout à l'heure, je disais que le syndicalisme révolutionnaire, révolutionnaire à sa création, répondait un peu aux attentes, de toute façon, des travailleurs, des producteurs. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être à nous d'essayer de trouver les moyens de les intéresser. Alors là, les grandes manifs là, qu'il y a eu, effectivement, ça permet quand même de toucher un petit peu de monde. Il faut savoir que la plupart du temps, dans les manifs, il y a très peu de syndicats qui distribuent des tracts.
Oui.
Et des partis politiques, et les syndicats, il y a que la CNT. C'est pas, ça ne fait pas légion. Donc on est le seul à donner, des fois ils sont plus ou moins bien faits, les tracts, je ne sais pas, c'est toujours fait un petit peu à la va-vite, et par... Mais ils sont faits, et ils sont faits par des travailleurs qui font ça en dehors de leur temps de travail aussi, sur leur temps de loisir. On fait ce qu'on peut. Mais ouais, peut-être que... Alors je dis pas qu'il faut... Alors, le fond ne changera pas, et je souhaite qu'il ne changera pas. Mais on peut se poser la question, comment faire pour les interpeller? Parce que, tout à l'heure tu parlais un petit peu... Tu n'as pas dit comme ça, le dynamisme de la CNT. C'est vrai qu'on est quand même partout. Moi, j'ai toujours trouvé que la CNT était partout. Donc, je trouve qu'elle s'épuise dans toutes les manifs. Alors, c'est nécessaire qu'on soit là, qu'on appuie, qu'on soutienne, qu'on participe. Mais en fin de compte, on fonctionne qu'avec un réseau de militants. Mais c'est aussi ce réseau de militants qui fait qu'on a une reconnaissance. Alors, pour ce qui est des entreprises et puis... c'est un petit peu plus difficile. Même s'il y a des victoires, hein, dans les EHPAD, récemment.
Ouais, alors c'est... En même temps, c'est peut-être une nécessité, parce que ça aussi, la loi du nombre, la loi de la résonance, un petit peu. Si on n'est pas si la CNT et les militants syndicalistes révolutionnaires n'étaient pas présents comme ça, même quelques-uns à chaque fois dans une cause, participer à animer une cause, co-animer une cause, est-ce qu'on serait toujours... est-ce qu'on aurait toujours notre raison d'être, et puis est-ce qu'on serait toujours visible? C'est pas sûr. On serait réduit à ce que je disais tout à l'heure, une espèce d'enfermement, quoi, un groupuscule syndicaliste, un peu comme il dit, un groupuscule politique. ça serait dommage. Enfin, je veux dire, c'est pas le rôle d'un syndicat, et c'est pas le rôle du syndicalisme révolutionnaire. C'est d'être dans la société, dans toutes les activités économiques, sociales et politiques de la société.
Alors,
avec la faiblesse de nos moyens, de reconnaître, mais putain, on ne peut être que là, quoi. On ne peut être que là.
Alors, le problème du syndicalisme révolutionnaire, ça repose quand même beaucoup sur la grève générale, sur le mythe de la grève générale. Et ça parle pas forcément. Alors déjà, la lutte des classes, ça parle pas.
Déjà,
grève générale, ouais. Ça parle pas énormément à tout le monde. Alors, si, moi j'ai entendu des collègues qui je bosse, qui disent qu'effectivement, pour la réforme des retraites, ils disent oui, il faudrait faire une grève générale. Mais chacun attend toujours que la grève générale commence par les fonctionnaires, par les routiers. Tu vois, en fait, mais moi je ne vais pas le faire tout de suite parce que moi j'ai des mômes à faire bouffer ou j'ai un loyer à payer ou des crédits à rembourser. Et donc on attend un petit peu que ce soit les autres. Mais il n'y a pas derrière cette. Alors, si on peut vouloir la grève générale, mais sans avoir conscience que ça doit amener à la révolution sociale.
Oui,
je veux bien la grève générale, mais il ne faut pas que ça aille trop loin.
À une satisfaction. bien précise, c'est-à-dire l'augmentation de la recette, le retour à 62 ans, enfin, sur des barres, ça c'est une revendication raisonnable, hein, on est d'accord. Alors déjà, dans la plupart des entreprises, tu parles de grève, tout le monde a peur, ouais, chez moi c'est flagrant, grève, plus personne dans le couloir.
Ouais.
Bon. Mais vous vous plaignez, ça fait déjà 20 minutes que vous me cassez les bonbons à couiner sur tout, il n'y a rien qui va. Bon, on s'organise, on fait en sorte que ça aille mieux. Et à ce moment-là, on porte des revendications. On porte des revendications, mais on s'organise pour ça.
Mais ça, ça, c'est quel que soit le niveau d'instruction. Hein.
Oui.
Dans ma boîte, c'est exactement la même chose. Les collègues qui demandent. En fait, ils ont accepté la délégation. Le pouvoir aussi. Donc, on va leur déléguer syndicaux. Ouais, quand est-ce qu'on va être augmenté? Pourquoi vous ne faites rien pour qu'on soit augmenté? Et là, tu l'as dit, attends, on va s'organiser tous ensemble. Et là, il n'y a plus personne.
Oui, c'est ça, oui.
Donc, il faudrait... Alors, la grande force du capitalisme, c'est qu'ils ont les médias à leur service. Ils ont le pouvoir, hein, directement.
Les médias en sont un. Enfin, les médias en sont un.
Oui, enfin, je veux dire, le pouvoir politique, économique et politique. C'est très difficile pour nous de lutter, nous, syndicalistes révolutionnaires, de lutter contre tout ça. Parce qu'on n'a pas les mêmes moyens de diffusion. Et c'est pas facile de toucher toutes ces personnes qui devraient.
Et d'autant plus que c'est pas une revendication ponctuel, catégoriel, qui est demandé, c'est de réorganiser la société en fonction des critères qui sont les nôtres. C'est ça qui fait peur. Et je le vois bien que les plus décidés de mes collègues, dès qu'on parle d'autogestion, de décision collective et d'application, ben il n'y a plus personne. On va peut-être s'écouter une petite musique Avant de reprendre notre émission sur le syndicalisme révolutionnaire de la CNT, bien sûr. Yes.
Alors, qui vient-on d'entendre, camarade ?
Eh bien, George Clinton,
Breakdown, c'est Breakdown. Le titre du morceau. Ouais.
Et le groupe, son groupe à l'époque, c'était, enfin, de ses groupes, c'était Parliament. Voilà. Parliament,
ouais. Ouais. Un morceau de...
C'est un grand monsieur bien sympathique, je trouve toujours apprécié, moi.
Puis on aime bien les, on aime bien les déglingos.
Et puis il vieillit bien, je trouve.
Donc, bah, on vous rappelle que vous êtes sur Radio Libertaire à l'écoute du monde merveilleux du travail et sur l'émission sur le syndicalisme révolutionnaire et anarcho-syndicalisme.
Absolument. Alors, Parliament, il faut dire qu'on ne l'a pas passé la dernière fois parce que c'était le thème de l'émission sur l'antiparlementarisme. Mais là, on s'est un peu fait plaisir.
Ben, on ne l'a pas passé parce que c'est moi qui ai merdé. Je n'avais pas le conducteur sous les yeux. Donc, pour ça, la technicienne a été obligée de mettre un morceau qu'on avait déjà passé en fonction de...
Ben, bref, voilà, on s'y retrouve.
Ben, oui. Mais de toute façon, on aime bien. C'est culturel aussi.
Ben, oui. Partager des moments de plaisir.
Oui, alors c'est de l'anglais, mais bon.
Nous reprenons le cours de notre émission. Donc après cette petite intermède musicale, alors les spécificités du syndicalisme révolutionnaire et de l'anarcho-syndicalisme, c'est aussi l'autonomie vis-à-vis de l'État. Nous vivons de nos propres deniers. Nous vivons de nos propres deniers. Alors ça fait toujours mal, quelque part, de se dire que on finance aussi, par le biais de nos cotisations, l'existence de syndicats auxquels on n'adhère pas. Alors, nous, on a un fonctionnement autonome, hein, on a des cotisations qui servent à notre syndicat à vivre, à agir, à se développer, à développer son action, sa pensée, etc. Et en même temps, comme on est des travailleurs, on paye des impôts, et ces impôts servent à financer des structures qui ne sont pas des structures amies. Je ne vais pas dire ça, si...
On dit ce qu'on veut.
C'est pas des structures ennemies non plus, mais voilà quoi. Ça pique. Donc, autonomie vis-à-vis de l'État. Nous, au moins, on peut dire que comme l'État est un patron, comme les autres, il a la double casquette à la fois de se prévaloir à la fois comme patron, parce qu'il emploie des fonctionnaires, mais aussi comme espèce d'entité morale au-dessus de la mêlée. Enfin, mais c'est faux. C'est avant tout un patron. Et ça nous... Je trouve ça toujours un peu gênant de payer pour ces syndicats avec mes impôts. Enfin, Donc nous, on est autonomes. Voilà. On est autonome vis-à-vis des partis politiques, parce que je n'adhère à aucun parti politique, qu'ils aillent tous crever. Ça, c'est personnel.
Ah oui, non, moi non plus.
Voilà. Et puis, je n'ai jamais fait, donc ça n'a pas changé de main.
Moi, je ne vois pas le... Je vois pas l'intérêt d'être syndicaliste révolutionnaire, avec effectivement tout ce qui... Ce que tu as rappelé, l'anticapitalisme, la lutte des classes, l'action directe, la grève générale, l'autogestion, blablabla, blablabla, le refus des permanents, et puis d'être adhérent à un parti qui va participer à des élections, c'est complètement antinomique. Donc, pourquoi pas ? Mais bon, ça reste...
Ouais, d'autant plus que...
C'est absurde, tu vois.
D'autant plus que, comme on est aussi anti-parlementaire, enfin, moi je suis aparlementariste,
oui, parce qu'on en a parlé dans des précédentes émissions.
Ah, hein. Parlementariste, donc, se présente à des élections, mais pourquoi faire, quoi? C'est pas comme ça qu'on... Ça ne fait pas partie du projet de société, du projet politique et social, économique de la CNT. Donc, voilà. Donc, camarade qui n'est pas encore à la CNT et qui est égaré en tant que libertaire dans d'autres structures, ni ennemi, ni ami, mais bof. Venez rejoindre la CNT. Autre...
Et puis restez-y, surtout.
Restez-y.
Non, mais moi, je trouve que la difficulté à laquelle on est confronté, c'est d'avoir pas mal de turnover aussi. Ouais. Alors que des camarades changent de région...
Différent.
Voilà. Mais que... Faut quand même... Moi, ça fait... 25 ans que je suis à la CNT Vignoles. Donc j'ai vu passer un certain nombre de personnes qui font leur classe en fait dans le syndicalisme révolutionnaire. Ils font leur classe, mais ils s'arment et après hop, ils rejoignent d'autres syndicats. Alors, ils vont pas transformer les autres syndicats. Alors, ils vont effectivement, ils vont être armés, ils vont avoir effectivement, ils auront appris. C'est pas qu'ils auront appris, mais ils auront mis en pratique l'action directe, tout un tas de choses. Mais après, ça va être au service d'autres syndicats et des fois
de leur propre carrière.
Et de leur propre carrière, ce que j'ai. On a connu. J'ai encore dit à un camarade du STE 93 il n'y a pas longtemps. je vous fais la confidence, parce que comme je dis syndicaliste révolutionnaire et que ça englobe les deux terminologies, et que dit ah oui, mais toi t'es syndicaliste révolutionnaire, mais moi je suis anarcho-syndicaliste. Alors je lui ai rappelé une petite anecdote avec notre ami Joseph.
Mais,
tu te rappelles toi,
mais, Joseph.
C'était pas son vrai nom, hein. Qui m'a fait la morale sur la distinction anarcho-syndicaliste. Oui. Et lui, il a quitté la CNT pour rentrer au PCF. Oui. Il passait 2 ans pour rentrer à la CGT et gravir les échelons. Et maintenant, il est à la Fédération de l'Hôtellerie. Donc, moi, j'aime bien qu'on me fasse la morale.
Oui. Mais qu'on l'applique aussi.
Mais qu'on l'applique. Et voilà, c'est la valeur de l'exemple. Voilà. Donc, moi, les dialecticiens, les intellectuels, les trucs, c'est bien, il en faut. Mais
c'est pareil, c'est
mais sans, voilà ce que j'en pense.
Ça en fait pas donner de gens.
Ça en fait pas donner de gens.
Comment on dit
Alors que le copain du STE 93, il n'était pas dans cette. Il n'était pas dans cette optique. Et ça, je le provoque, il me provoque, c'est normal.
Oui, car la finalité, donc l'absence des négociations, contrôle des négociations par la base, par exemple, aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'on doit tous participer et vérifier que la parole d'un mandaté, et non pas d'un élu, a bien été portée. Et la parole du mandaté, c'est la parole de la base, finalement, qui envoie l'un d'entre eux pour...
Le mieux, c'est... Ben, effectivement, il y aura toujours des personnes qui vont être plus à l'aise pour jacter, pour se confronter à l'employeur, par exemple. Mais c'est bien d'être à plusieurs. C'est justement, ça évite. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a appris à la CNT en tant que syndicaliste révolutionnaire. Le but, c'est pas d'être d'être délégué, d'être mandaté, mais le but, c'est de faire en sorte qu'un maximum de personnes se joignent à toi pour justement les discuter. Ça permet d'abord de montrer qu'il y a une force derrière soi, et puis ça t'empêche de dire des conneries. Parce que les copains qui sont là, ils t'écoutent. Si tu dis une connerie, ils te reprennent. Si tu dis une connerie, c'est-à-dire que si tu vas pas dans le... Tu ne reproduis pas, effectivement, l'esprit, en tout cas, de ce qui a été discuté...
par la base.
À la base. Ils peuvent te dire, attends, c'est pas ce qu'on a dit.
Donc, la délégation plutôt que le délégué. C'est important, ça, parce que le délégué, très rapidement, quand vous êtes confronté à un patron et que vous avez l'habitude de négocier, vous devenez quelqu'un d'autre. Pour le patron et il le montre et il le fait savoir et son but c'est quoi, c'est de vous couper de vos camarades travailleurs en vous attribuant un statut que vous n'avez pas, qui est une espèce de intermédiaire entre la base des travailleurs et lui, sa très haute personne. Et c'est toujours piégeux, c'est-à-dire que ça tend, quand on n'y prête pas attention, ça tend à vous couper un petit peu des réalités et des choix, des décisions de la base.
Et surtout quand on est souvent en réunion, avec, et même parfois trop souvent en réunion avec des directeurs ou des PDG, on finit par, je dirais pas épouser leur point de vue, mais... peut-être une sorte de communion d'esprit.
C'est un drôle de Stockholm.
Ouais, c'est ça. Et s'il n'y a pas la base à chaque fois, si tu n'es pas en respect en contact avec la base qui te reprend, tu peux vite pas perdre des pédales. Mais...
Alors ça, c'est une bonne... c'est un bon axe. C'est la délégation plutôt que le délégué. Ça, c'est quelque chose à travailler dans les entreprises. Malheureusement, il faut être plusieurs.
Le problème qui se pose, on peut être plusieurs. Parce qu'en fin de compte, le but, bah, c'est peut-être un peu de faire comme les soviets. Tu travailles dans l'entreprise. Quand je dis les soviets, ce n'est pas les soviets de l'URSS. Hein. C'est les soviets tels qu'ils ont pu être conçus à Kronstadt, par exemple. Entendons-nous bien.
C'est un conseil ouvrier. Hein.
Voilà. Tu n'es pas forcément adhérent. Tu fais partie de la boîte. On prend en compte ton avis. Le problème, c'est que nous, il y a deux aspects. Il y a l'aspect syndical et l'aspect travailleur. Et donc, en tant que travailleur, oui, on peut avoir l'avis de la base. Après, il faut que ça corresponde quand même un petit peu aux visées syndicales, aux syndicalistes révolutionnaires.
Ouais, ouais,
bien sûr. Donc, moi, je trouve qu'il y a un petit peu le cul entre deux chaises. On ne peut pas juste... On ne peut pas juste demander des améliorations de conditions de travail, il faut que ça dépasse aussi tout ça.
Ouais.
Donc, alors, le problème, c'est que quand on est... Donc, si je reprends le soviet, le conseil d'atelier, d'usine, tu n'as pas besoin d'être adhérent. Tu sais ce que tu as à faire, tu connais ton boulot, tu sais ce que tu as à dire, tu sais comment tu vis. Le problème, c'est que dans les syndicats réclament une adhésion. Et l'adhésion, ce n'est pas juste donner de l'argent. C'est donner de l'argent pour financer le syndicat, mais ça te permet aussi de... C'est pas que ça te responsabilise, mais ça t'engage aussi.
C'est un engagement, l'adhésion. C'est-à-dire que c'est participer à des actions, c'est participer à des émissions, c'est participer à des manifs, c'est participer à des distributions de tracts, c'est participer à des actions syndicales dans les boîtes.
Et puis dans les syndicats autogérés comme une autre, c'est pas pour faire vivre des permanents syndicaux. C'est vraiment pour alimenter, pour devenir une force économique, entre guillemets, en tout cas, force qui nous permet de se battre contre les actions juridiques du patron, et pas que, parce que tu vas coller des affiches, tu vas avoir la mairie qui va te tomber sur le dos, ça nous arrive aussi. Voilà, mais tu t'engages à soutenir, à apparaître, quelque part.
C'est des points qui doivent amener à quoi, à la gestion des luttes? C'est-à-dire que ça, c'est un deuxième temps, si je puis dire, parce que là, c'est vrai qu'on en est encore, finalement, dans cette situation que tu viens de décrire, aujourd'hui. Alors, ça nous renvoie à ce que tu disais, à la question que tu posais. Est-ce que... on est en adéquation, est-ce qu'on est à ce moment de phase? Bah, malheureusement non. Et ce moment de phase, bah, ça permet de construire l'autogestion des luttes. Et pour qu'elle soit efficace, bah, faut faire nombre. Et bon, on n'y est pas. Quoi.
Alors le syndicat, ça a aussi une vocation de formation. Il n'y a pas que le syndicat. Normalement, ça devrait être l'union régionale ou l'union locale. C'est le principe des bourses du travail.
Là aussi, c'est mais déjà simple. Ça synthétise, si tu veux.
C'est bien de laisser s'exprimer tout le monde, se dire vous êtes derrière moi, on y va, je vais au casse-pipe, et vous me soutenez. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même plus confiance aux personnes qui adhèrent au syndicat auquel j'adhère moi-même, plutôt qu'à des personnes qui me disent ouais, vas-y.
Devant, avance, on te suit.
On est d'accord que tu fasses ça, mais nous, on s'engage de rien. Et puis après, on pourra dire bah non, je ne suis pas adhérent, moi. Donc, c'est un petit peu. Dans le pratico-pratique, on a quand même. Moi, j'ai des questions, je me pose des questions. Et je n'ai peut-être pas forcément toujours casse-pipe. Pour des personnes qui veulent pas, d'ailleurs. Bon, moi, il n'y a pas de réunion type soviet. Tu réunis tout le monde à coup de sifflet, puis mais qui viennent, on va tout casser. On n'est pas comme dans la grève d'Eisenstein. On est loin de tout ça.
Ah bah.
Quand tu leur dis, venez, coup de sifflet, tout le monde se barre. Bon, enfin, bref, bon. Mais bon, n'empêche que... on est en cul entre deux chaises, entre essayer de faire des adhérents et les former, et puis les faire agir dans la boîte, qui n'est pas forcément totalement formateur non plus. Ça leur fait prendre des responsabilités, mais c'est limité aussi. Et puis moi, je te dis, il y a une question de confiance. J'ai quand même plus confiance en ceux qui adhèrent.
Oui, ça va sans dire, mais après, je crois que le point d'achoppement, il est plus lent de ça, comment amener les salariés lambda, quoi, à prendre conscience que il y a une nécessité de changer de modèle économique, politique et social. Parce que là, c'est une lutte à mort contre la société de consommation. Parce que le capitalisme, c'est pas autre chose. C'est de faire en sorte que, ce que je disais tout à l'heure, que tu aies besoin d'une 27e paire de chaussures, d'une 53e chemise, d'un... Enfin...
Mais un autre problème aussi auquel on est confronté, parce que là, de ce que je vous dis, effectivement, l'adhésion, machin, fait bouger les salariés, ça, c'est dans le cas où il n'y a qu'un seul syndicat. Mmh. Or, dans les boîtes, il n'y a rarement qu'un seul syndicat. Mmh. Souvent, il y en a cinq, voire plus. Hein. Il y a des boîtes où il y en a une dizaine. Là, c'est difficile, parce qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes visées.
Mmh. Ah bah oui. C'est l'électoralisme. C'est se placer pour la plupart de ces cinq centrales.
Oui, non, mais même si tu prends la décision, tu rassembles un certain nombre de... Alors là, j'en reviens aux adhésions, hein, à la confiance des camarades qui adhèrent. Tu rassembles du monde, on prend une décision collective... Mais les autres syndicats qui participent n'ont pas les mêmes visées, n'ont pas les mêmes orientations politiques et jusqu'à quel point, même s'ils sont syndiqués, jusqu'à quel point tu peux leur faire confiance. Tu as assisté à des réunions de CE à l'époque
Tu
as bien vu que...
Plutôt.
J'ai fait des protocoles et des trucs... Bonjour, hein.
Très rapide.
Et ça te choque. Tiens, je lisais un truc justement, sur le syndicalisme en 36, pendant le Front populaire, il y a déjà des conflits dans les entreprises entre les syndicalistes révolutionnaires et les syndicalistes révolutionnaires de la CGT-SR et les syndicalistes de la CGT, qui pouvaient être syndicalistes révolutionnaires aussi, mais qui appartenaient à la CGT. La CGT était déjà beaucoup plus importante que la CGT-SR. Donc il y avait des conflits sur le comment on appuie les travailleurs en grève, en lutte, en tout cas, en lutte. Et ça se passait très très mal entre CGT et CGT-SR. Et même, c'est Bénard, donc en 36, qui a envoyé une lettre à Jouot, en disant, voilà, on est camarades, donc on doit se lutter ensemble. Et Jouot a répondu, beaucoup plus laconiquement, oui, mais nous, on peut être que, en gros, que camarades avec ceux qui soutiennent l'unité ouvrière. Voilà, la réponse. Donc, en gros, c'est... vous nous bouffez le cul ou continuez à vous taper dessus, à vous faire chier. En fait, la CGT déniait l'existence de la CGT-SR dans les boîtes, quoi. On peut retrouver ces documents-là, hein, on retrouve tout ça dans le combat syndicaliste des années 30.
Cette situation, on l'a connue, moi j'ai moins de sainteté que toi, parce que ça fera 22 ans.
Je parle de 36, c'est que j'étais déjà.
C'est bien pour ça que
j'ai bien connu Pierre Bénard.
J'ai bien compris. Moi, ça va faire 22 ans cette année, j'ai pas connu Pierre Bénard. Mais par contre, j'ai connu effectivement quand on allait se frotter à la CGT du Livre, parce qu'on a été à un moment donné tenté de soutenir des camarades qui s'implantaient dans le Livre parisien. Ils avaient en fait la même attitude que celle que tu viens de décrire concernant.
Surtout qu'ils...
Mais la même démarche, en fait, la même démarche.
Alors moi, j'ai toujours entendu dire que dans le Livre, ils étaient... mais c'est des camarades. En fait, même à la CNT Vignol, il y avait deux tendances. Il y avait ceux qui disent, on va s'implanter, parce qu'on est syndicaliste révolutionnaire, on va s'implanter dans le Livre. Et ceux qui disent, mais non, ça c'est la chasse gardée de la CGT, puis eux, c'est des camarades, ils sont syndicalistes révolutionnaires, tout ça, ça fait des... Mon cul.
Sachez que pour à l'époque, pour travailler dans une imprimerie, il fallait adhérer à la CGT, ça vous facilitait la signature d'un contrat. Mais si tu n'adhérais pas à la CGT,
Non, mais c'était comme ça. Alors là, ça date de ce que tu me dis, c'est peut-être récent. Enfin, ça remonte à oui, moins de 20 ans, enfin, une vingtaine d'années, mais voilà. Mais c'était, ça a toujours été comme ça. Puis dans toutes les industries, en fait. c'était bien ça le problème. Et c'est un peu ce que voulait dire Jouot. C'est soit tu prends ta carte à la CGT et tu nous suis, ou tu fermes ta gueule, quoi.
Donc, voleur, rien de neuf sous le soleil, on ne peut pas composer avec, avec ces gens qui sont autre chose.
Ah ouais, puis j'ai pas envie.
Non, c'est bon. qu'est-ce qui nous caractérise encore? Alors, ce qui nous caractérise, c'est je pense que c'est l'aspect libertaire. Libertaire. Alors, il y a différents types, différents degrés. Hein. On n'a pas tous non plus.
Le syndicalisme révolutionnaire, tu peux avoir plusieurs tendances.
Ouais.
Aussi, tu en as qui vont être plus proches de Bakounine, d'autres de Pierre Bénard, d'Émile Pouget, je sais pas, et d'autres qui n'ont pas, pas en arrière-pensée des personnes. Et Bakounine, ça revient quand même. Hein, Alors, des fois, c'est pas forcément super bien interprété, mais ça revient quand même souvent. Enfin, souvent. J'ai déjà entendu, en tout cas.
Et puis, certainement, c'est Blanqui.
Ah, bah oui, mais là, c'est... Bah oui. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un.
Et Blanqui, non, il y a deux frères.
Oui, non, mais aujourd'hui, il y en a qu'un. C'est moi. C'est aussi pour vous emmerder. Oui. Alors, ce que je voulais dire aussi, ce qui nous caractérise, c'est ce que je voulais aussi évoquer tout à l'heure, c'est qu'on est un petit peu sur tous les fronts aussi, en fait. Tu vois, on est de toutes les manifs. C'est ce qui nous épuise aussi. Hein. C'est peut-être ce qui nous empêche de fonctionner sur du fond, sur des grandes idées de fond. Et qui... bon, en fait, on est toujours dans l'immédiateté.
Ouais, c'est aussi ce qui alimente. C'est parce qu'on est, on n'est pas axé sur. Alors voilà, c'est qu'on est aussi, on a une dimension politique. Et le syndicalisme, c'est politique. C'est pas un parti politique. C'est pas un courant politique. C'est politique.
On peut être considéré comme le parti du travail. C'est pas un parti politique constitué comme les bourgeois, ou les républicains bourgeois le constituent, voilà. Effectivement.
Pour moi, la CNT est politique, le syndicalisme révolutionnaire, l'anarcho-syndicalisme, politique. Ça ne peut être que politique, et la politique, c'est tout. C'est-à-dire, c'est l'aspect social, l'aspect économique, l'aspect écologique, l'aspect. Voilà, c'est tout. Donc forcément, on est partout. Alors forcément, ça épuise.
Alors je voulais dire aussi, puisque je parlais, je ne sais plus si j'ai évoqué à l'antenne la valeur de l'exemple, mais c'est bien, effectivement, pour nous de dire il faut faire la révolution, il faut s'organiser comme ci, comme ça. Après, effectivement, il y a la pratique. Donc il y a les syndicats qu'on fonctionne sur le modèle de l'autogestion et de non-permanents syndicaux. Mais il y a aussi les actions. Alors, il y a les actions où on va de solidarité, où on va soutenir les sans-papiers, les chômeurs, les manifs de chômeurs, ou bref, tout un tas de... Mais il y a aussi ce qu'on essaye de construire au sein de l'Union régionale, par exemple. Alors, je parle que de la région parisienne, je vais parler des autres régions, hein, j'y vis pas, on va déjà faire... Et effectivement, il y a aussi tout ce travail d'éducation par les projections de films, de débats, donc de rencontres entre personnes qui sont à la fois de la CNT, mais qui sont pas tous du même syndicat, et des personnes qui viennent de l'extérieur, ça peut être des camarades anarchistes... Ou même qui ne sont pas politisés, des gens du quartier. Et il y a des actions. Alors, c'est pas que du débat, de la projection et du débat. Il y a aussi des concerts de soutien. Ça, qui ramène aussi un petit peu du monde, qui fait connaître. Et puis, en fait, ce qu'il faut, c'est créer de la vie et sur les bases qu'on leur revendique. Mmh. Et qui fonctionnent, puisqu'elles existent. Mmh. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a des syndicats qui font pas une bibliothèque, mais enfin qui font le subbook par exemple. Voilà. Donc, c'est pas juste sur le terrain syndical, on va de. Mais c'est essayer de construire un projet de société. J'ai trop parlé.
Tu veux non, c'est très bien. Je suis subjugué, comme toujours. On va peut-être passer à des annonces militantes.
On va passer à des annonces militantes.
Parce que là, on a plein de
choses
importantes à dire. Des annonces que moi, je estime importantes, mais tu me diras si...
Mais oui, mais ils sont importantes, mais oui.
Voilà.
Alors, est-ce qu'on fait quand même un petit tour d'une petite bibliographie pour terminer, pour conclure ?
Bien sûr.
Moi, j'ai relevé quelques ouvrages. Ils sont pas tous... On va commencer par Pierre Bénard, puisque Pierre Bénard est un des fondateurs de la CNT française. Mmh. Il est passé de la CGTSR à la CNT en 1946. Bon, il est mort en février 1947, mais... Mais quand même, alors, il n'a pas créé tout seul, hein. Il y avait d'autres syndicats, lui c'est la personnalité. Justement c'est peut-être ça aussi qui nous manque aujourd'hui, peut-être d'avoir des personnes. Alors c'est peut-être ce qui fait notre force et puis notre
des personnalités notre mais pas des leaders.
Ouais, des personnes qui seraient capables de... Alors on a des revues hein, quand même, mais...
Donner une dynamique.
Donner une dynamique sur...
Je sais pas.
Bon, enfin bref. Bon, en tout cas, on a en tout cas ceux qui ont écrit par le passé. Donc, on a Pierre Bénard, qui a écrit son premier, c'était Les syndicats ouvriers et la révolution sociale. Il a été suivi après du Monde Nouveau, qui a été réédité il y a peut-être deux ans, trois ans maintenant, par la librairie du Monde Libertaire. Donc là, on pouvait encore le trouver. L'éthique du syndicalisme, ça a édité par la CNTRP, je ne suis pas certain qu'on le trouve. C'est le syndicat ouvrier, la révolution sociale, ça va être difficile aussi. Émile Pouget, l'action directe. Donc c'est 1910, mais c'est toujours. Ben ça, vous pouvez le trouver. Alors, j'ai pas noté les éditeurs. Vous allez chez Publico.
Hein, l'éditeur, ouais. C'est pas important puisque c'est tombé dans le domaine public maintenant.
Ouais, mais enfin, ils sont pas 50 à sortir l'action directe d'Émile Pouget. Le sabotage, un tout petit livret qu'on trouve facilement. À la République aussi. La Confédération Générale du Travail et le suivi du Parti du Travail. ça, c'était édité par la CNT Région Parisienne. Avoir du mal à le trouver aussi maintenant. Et de Mercier et Griffuel, il y avait Anarcho-syndicalisme et syndicalisme révolutionnaire. Ça date des années. C'est sorti dans les... fin 70, semble-t-il. Et. Enfin, il était mort, Griffuel, déjà, mais bon. Et ben, y a quand même un ouvrage de Georges Sorel, c'est Réflexions sur la violence. Ça, vous pouvez le trouver aussi. Alors, Georges Sorel n'a pas été... il a écrit sur le syndicalisme révolutionnaire. C'était un admirateur de Pelloutier. Mais il n'a jamais adhéré au syndicalisme révolutionnaire. À la CGT, en tout cas. Voilà. Mais c'est intéressant de le lire. C'est intéressant de... Voilà.
Ça me fait, c'est parfait, ça me fait une transition en or, parce que la première annonce va concerner Publico en fête d'été, grande braderie de livres, donc ceux-là en partie, et de disques. Alors, je suis moins fan de disques, mais il en faut aussi. Samedi 24 et dimanche 25 juin, de 11h à 19h, donc librairie Publico dans le 11e métro République.
Voilà. Il y a des animations aussi qui.
Oui, mais je n'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes pour voir de près.
Voilà, bah, vous allez là-bas. Moi j'ai mes lunettes, mais dans mon sac. Voilà. Donc, voilà. C'est en tout cas le samedi 24 juin à partir de 14h jusqu'à 19h. Et puis le dimanche à 16h. Non, mais ça c'est... Oui, enfin bref. Non, c'est, tout ça c'est de 11 à 19. Et voilà. Non, le samedi et le dimanche c'est de 11 à 19. Et les animations, c'est justement à 14h. Il y aura des animations à 14h, à 15h. Et le dimanche c'est à 16h. Et puis ça, et voilà. Et 18 à 21h. En fait, il n'y a que des animations. Vous y allez, passez votre journée là-bas.
Voilà. Voilà. Et puis achetez les livres. Notamment ceux de la liste.
Si vous les trouvez.
Ouais, faites un effort. Alors, autre rendez-vous important, le 23 juin à 10h30, place de la Sorbonne à Paris. Nous en avons déjà parlé ici à l'antenne. La flamme olympique est un symbole réactionnaire. Éteignons-la. Donc, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
dévoile le trajet de la flamme olympique en France. Rassemblons-nous et faisons-nous entendre par Saccage 2024. Le rendez-vous est pris le 23 juin, 10h30, place de la Sorbonne, avec des casseroles pleines d'eau, remplies d'eau, pour éteindre la flamme. Alors, mais ok, oui. Vite, après on peut faire tac, 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 tac.
Et puis t'as intérêt à te barrer surtout. À courir vite. C'est plutôt pour les jeunes. Plus anciens, vous allez chez Publico. Comme moi, par exemple. Ouais, alors, moi, je vous ai souvent parlé d'Yvan, qui était en prison. Et ben, sachez que depuis le 12 juin, Yvan est sorti. Voilà, mais il est sous contrôle judiciaire. Avec les restrictions sont interdiction de se rendre en Île-de-France, interdiction de sortir de France métropolitaine, pointage chez les gendarmes une fois par semaine, et il doit remettre au greffe du tribunal son passeport et sa pièce d'identité. C'est sympa comme... Bon, vous pouvez aller sur Internet pour avoir plus d'infos sur les agendas de lutte, l'AMI et puis Paris Lutte Info, vous allez trouver tout ce qui concerne Yvan Aloco, que vous pouvez contacter quand même, puisque avant il avait un numéro d'écrou. Maintenant, on peut. On a une adresse mail qui s'appelle, en un seul mot, du fond du placard, @riseup.net. Voilà, du fond du placard, avec 2D donc. Riseup.net. Voilà, bon. Vous pouvez lui écrire, vous dites que c'est le monde meilleur du travail qui vous a rejoint.
Camarade est sorti du placard, il y en a un qui sort du
coma.
Serge, dont on a déjà parlé à l'antenne, on est, personnellement, je suis super heureux qu'il émerge. J'espère que.
Et qu'il puisse écrire, visiblement. Puisse écrire,
puisque c'est une lettre de lui. Qu'il retrouve ses moyens, à la fois physiques. Intellectuel, etc. Je vais vous lire quelques passages de son courrier. Salut tout le monde, je m'appelle Serge et j'ai été gravement blessé, comme beaucoup d'autres, à la manifestation contre la méga-bassine de Sainte-Soline du 25 mars 2023. J'ai été atteint à la tête par une grenade, probablement tirée en tendue par un gendarme équipé d'un lanceur de grenade Cougar. J'ai subi un grave traumatisme crânien qui m'a mis en situation d'urgence absolue, situation aggravée par le blocage de ma prise en charge par les secours durant la manifestation. À noter, à répéter ça aussi. Après un mois de coma artificiel et 6 semaines de réanimation, j'ai été transféré dans un service de neurochirurgie, puis en centre de rééducation. À l'heure actuelle, je ressens d'énormes progrès dans ma faculté à bouger, manger et tout simplement échanger et réfléchir. Le chemin va être extrêmement long, mais je suis déterminé à tout donner, à me battre pour récupérer ce qui me constituait, tant physiquement que mentalement, ce que je disais tout à l'heure. Je le fais évidemment pour moi, mais aussi parce que je pense que refuser d'abdiquer, refuser d'être écrasé par la machine répressive est une nécessité politique à l'heure où les États font le pari de la terreur et de notre passivité. Je vous renvoie aux chroniques ACAB.
À cab.
Voilà. Et je ne dirai pas la suite, mais c'est une bonne nouvelle.
Bah oui, c'est plutôt encourageant, et puis on est content que. On aurait préféré que ça se passe pas.
Oui,
mais ça s'est passé. Donc vous êtes toujours sur Radio Liberté à l'écoute du monde meilleur du travail, et on vous fait quelques annonces. Quand est-ce qu'on va retrouver la CNT sur les ondes de Radio Libertaire? Eh ben, mardi 27 juin, on est le combien là?
Nous sommes le 19.
Donc c'est pas le...
Dans 8 jours, mardi prochain.
Voilà, ben, mardi prochain, voilà.
Demain.
Vous retrouvez, oui, dans 8 jours. Mardi en 8. Service public, voilà, c'est le 4e mardi du mois, fait par le syndicat de l'énergie avec notre camarade Bernard.
Ah, salut Bernard.
Avec sa hanche en plastique. je vais quand même vous évoquer que le deuxième mardi du mois, c'est les copains du STE 94, donc c'est Éduc 93, et là ça sera au mois de juillet. Est-ce qu'ils vont faire une émission, je sais pas. Éduc 93, c'est des profs, va savoir, ils sont pas déjà barrés. Nous, on va se... Alors, on est toujours sur la radio. Donc, le 3 juillet, normalement, il y aura le retour de Michael pour faire un bilan des manifs unitaires. Et puis, voilà, on tirer ce qu'on peut. Peut-être parler des Black Blocs, tout ça. Voilà. Juste un truc. Vous pouvez recevoir l'éco-syndical 6 qui est sorti il y a quelques temps, peut-être un mois, peut-être un peu moins. Il faut pour ça contacter le bureau régional parisien de la CNT par mail. Donc c'est br.rp@cnt-f.org. Vous allez sur le site de la CNT région parisienne et vous pourrez effectivement vous procurer l'éco-syndical 6. C'est gratuit. Sous format papier, et puis vous pouvez aussi, sur le site, normalement, consulter les catalogues des éditions de la CNT Région Parisienne. Voilà. Tu voulais nous faire une annonce pour les camarades.
Importante, la dernière annonce, pour moi, ce soir, c'est une nouvelle victoire de la CNT contre Demus 6. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Les camarades de Toulouse, alors... Le 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté la résidence de Vinci de Blagnac, groupe Domus 6, ou VI, je ne sais pas, de l'ensemble de ses demandes et a confirmé la régularité des élections professionnelles que la CNT a largement remportées en novembre 2022. C'est une nouvelle victoire de nos camarades de Toulouse, de Toulouse. Du syndicat CNT des industries et services de Haute-Garonne. Voilà. Et là, le syndicalisme révolutionnaire et l'anarcho-syndicalisme remportent des victoires. Et c'est bien de le dire. Et ça fait du bien de le dire.
Oui. On va vous rappeler quand même, avant de nous quitter, les permanences syndicales du syndicat... des syndicats du 94 qui sont les vendredis de 17h30 à 19h30 sauf pendant les périodes scolaires et jours fériés à la Bourse du Travail au premier étage de la salle vous trouvez la salle CNT au 27 boulevard des Alliés à Choisy-le-Roi et puis les permanences sur Paris donc le lundi de 14h à 17h au 33 rue des Vignoles le mercredi de 17h à 19h et le samedi avec le syndicat unifié du bâtiment de 10h à 12h.
Camarades, ne confondez pas les permanences et les permanents.
Voilà. Donc, on vous salue tous et toutes. On se retrouve le 3 juillet avec Michael pour faire un bilan des manifs qu'il y a eu. Et puis, on va laisser la place au Proton se rebiffe. On lance le générique de fin.
Vous avez tous, à un moment donné ou à un autre de votre existence, ou même encore maintenant, flirté avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires.
D'abord, faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux.
Que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Radio Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et... renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est, bien sûr, modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.